Le thème de ce message, c'est retour sur investissement. Retour sur investissement. Genèse chapitre 26, verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toutes ces contrées, à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. On va un peu plus loin. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Je reviens sur ce verset, juste une question comme cela. À votre avis, dans ce verset, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous semble le plus important ou qu'est-ce qui vous plaît le plus? Isaac sema dans le pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est quoi le plus important? J'entends pas. Certains disent il le bénit. Il sema. Si on sème pas, on récolte pas. Le centuple. C'est quand même pas mal, hein? C'est tout? Pardon? Non, mais juste sur ce verset. Oui. Je répète la phrase. Donc, je note, vous avez ce qui vous paraît important, c'est il sema. Et il obéit. Et il recueillit le centuple. La même année, oui. Oui, exactement, la même année, hein. Il sème et tout de suite après. C'est tout? Ouais. Moi, je pense à autre chose. Et je suis content, vous ne l'avez pas dit. Le dernier mot qui reste, le pays. Il sema là où il était. Il sema là où il était. Finalement, regardez la situation mondiale. Aujourd'hui, on considère que dans énormément de pays dans le monde, notamment en Amérique du Sud, par exemple, il y a une manifestation incroyable et une évangélisation remarquable. Vous avez les églises qui montent en flèche. Si on regarde la proportion de chrétiens dans certains pays, on est entre 20 et 45, voire 50% du pays réputé ou reconnu comme chrétien engagé, c'est-à-dire chrétien mouvance protestante, voire plutôt évangélique, voire même pentecôtiste. En France, on est à 0,1, 0,2. Si on regarde la réalité du terrain, 66 millions de Français, 600 000 évangéliques. Ça fait très peu quand même. Ça fait quand même très peu. Finalement, cette idée de l'effort que Isaac va faire et qui va être récompensé, c'est un petit peu l'idée du risque. Parce qu'il pouvait garder la semence et se dire, si je sème mais que j'en retire rien, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vous signale qu'il vient de quitter un endroit où il y avait la famine. C'est le début du texte que l'on a lu. Il y eut une famine dans le pays. Il y avait déjà eu des famines. Et on est encore dans un temps de famine. Et face à la famine, Isaac a une logique, c'est qu'il se dit, je ne vais pas rester là et mourir de faim, je m'en vais. Je vais m'en aller ailleurs où j'aurai de quoi manger. Et vers où il s'en va? Dans son idée, vers l'Égypte. Sauf que Dieu l'arrête avant. Il ne veut pas qu'il aille jusqu'en Égypte. Et il l'arrête au fameux pays de Guérar, pays des Philistins. Ce n'était pas spécialement des amis, mais ce n'était pas encore des ennemis. Ils ont réussi à s'arranger tout de même. Le fait est qu'ils s'arrêtent là. La famine est un petit peu plus loin. Mais la famine peut gagner, comme la guerre peut avancer, comme le trouble peut s'installer et peut s'étendre. En général, quand on regarde, et là aussi, ces bonnes statistiques de ce qui se passe dans le monde, on est quand même obligé de reconnaître qu'il y a aussi, malheureusement, pas mal de catastrophes dans le monde, et qu'une catastrophe en chasse une autre, et que on n'est pas prêt de se remettre ni en Allemagne, ni en Espagne, ni dans la région de Seine-les-Alpes de ce qui vient de se passer. Mais vous allez voir que, malheureusement, peut-être qu'une catastrophe va en chasser une autre, certainement. Donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de difficultés, que le monde est de plus en plus difficile. Et ça n'empêche pas des personnes de décider de semer quand même. Tant pis si on perd tout, mais on sème. Parce que dans l'idée, si je sème, c'est pour récolter. Et si je sème, je peux me dire que ce que je sème va me rapporter davantage que ce que j'y ai mis. Parce que si ça me rend là un pour un, ça ne suffira pas. Il faut que ça se multiplie à un moment. Il faut que je puisse m'en nourrir et en avoir encore de réserve pour semer à nouveau. Dans l'idée, je me dis que dans l'attitude d'Isaac, mais qui a été l'attitude de son père, Abraham, il y a eu un retour sur l'investissement qui a été fait. Je me rends compte que cette idée de l'effort, d'une vision qui a été audacieuse, a certainement permis à notre monde des avancées extraordinaires. Vous savez qu'il y a un avion qui est en train de voler sans carburant à travers le monde, le Solar Impulse. L'idée, c'est de faire le tour du monde sans aucune source d'énergie que le soleil. Il est même capable de voler durant la nuit parce qu'il a emmagasiné de la ressource durant le jour. Mais peut-être que vous avez lu qu'un homme vient de mourir dans un accident d'avion et lui essayait de faire le tour du monde en ULM. Là, c'est arrivé hier ou aujourd'hui. Donc vous avez toujours eu des aventuriers qui ont voulu aller au bout des limites. Pour faire quoi? Pour faire avancer la science, pour faire avancer la médecine. Rappelez-vous ce grand spécialiste qui s'est inoculé lui-même le fameux vaccin pour prouver que ça pouvait marcher. Il n'est pas mort, hein? Et ça a été une grande avancée tout de même. Donc on s'aperçoit que certains ont été capables de faire des choses aux yeux des hommes insensés, mais parce que l'idée, c'était le profit. Il fallait que ça rapporte quelque chose. Et je me dis que quand le profit est partagé, alors ça reste une bénédiction. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est que le profit ne se partage plus. Eh oui, le profit ne se partage plus aujourd'hui. Plus les gens peuvent faire du profit, plus ils le garderont pour eux. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de bien des maux. Mais tant qu'on est capable d'investir, pas pour garder le profit, mais pour que ce soit partagé, rendu au monde, ça peut être une bénédiction et Dieu peut s'en servir. Je me dis que Isaac a bénéficié de l'attitude de son père. Quand Isaac arrive dans le pays de Guérar, on l'a lu ensemble, Dieu traite une alliance avec lui. C'est la première fois qu'ils se parlent, d'ailleurs, tous les deux. Et Dieu lui dit, je vais te bénir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'obéissance. Je vais te bénir à cause de ton père, parce que ton père a obéi, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il s'est attaché à mes commandements et qu'il ne s'est pas écarté de ces voies-là. Et on se souviendra qu'Abraham a été nommé le père des croyants. Donc, on comprend qu'Abraham a semé dans cette terre de Guérar aussi, il a été béni, mais il a semé quelque chose dans le cœur de son fils, dans le cœur des générations qui suivront. C'était la foi, s'attendre à Dieu, espérer après Dieu, compter sur lui, espérer en sa puissance, espérer en sa grâce. En fait, on s'aperçoit que Dieu reste toujours en dehors de toutes les logiques humaines. Dans le Nouveau Testament, on y viendra tout à l'heure, il est dit dans l'évangile de Marc, qu'un semeur sortit pour semer sa semence, et qu'une partie tomba le long du chemin, une autre dans des endroits pierreux, une autre parmi les épines, une autre dans de la bonne terre. Quatre semences et une seule qui dépassera les espérances. L'une tombée le long du chemin a été foulée, mangée par les oiseaux. En somme, quelqu'un entend l'évangile, comprend pas. Il laisse passer cette occasion et il poursuit sa route sans Dieu. Un autre entend l'évangile, l'accepte, il le reçoit. Et ça brûle en lui. Et la semence, elle lève immédiatement. Sauf qu'il y a des pierres. il y a des pierres, il y a finalement des épreuves, des difficultés. Et la semence, ça n'arrive pas à s'enraciner. Elle n'arrive pas à pousser ses racines un peu plus profondément. Et quand le soleil frappe, comme il n'y a plus rien qui vient d'en bas, comme il n'y a plus rien qui vient de la source, elle va sécher, elle va griller, elle va disparaître. Ils ont cru un moment et ils ont abandonné la course. On en connaît malheureusement comme ça. Et puis d'autres ont été étouffés par les problèmes de la vie, par les difficultés, par les soucis du siècle présent. Et cette parole qui avait suscité tellement d'espérance a été littéralement étouffée. On a entendu une parole de Dieu ce matin. Prendre du temps pour Dieu. Si on ne s'arrête pas, si on ne prend pas du temps pour Dieu, on est rattrapé par la vie, on est rattrapé et le monde va de plus en plus vite. Et il vous emmènera dans son manège tourbillonnant et vous verrez que vous aurez du mal à vous arrêter. Cette semence, elle n'a pas porté le fruit qu'il fallait. Mais je retiens la dernière. Elle en a porté 30 de fruits, voire 60, voire même 100, le centuple. Dites-moi le retour sur investissement. Il est pas mal quand même, hein? Il y en a beaucoup qui miseraient sur ça au 440, hein? Le retour sur investissement, il est exceptionnel. Voyez-vous, Dieu est capable de nous faire vivre des choses comme ça encore, et je veux le croire. Il me semble que Dieu reste en dehors, parce qu'il est le Créateur, il reste en dehors de nos logiques à nous, et il ne fait pas de la rentabilité. Le dumping, ça ne lui convient pas. Il ne fait pas de la rentabilité. Ce qui l'intéresse, c'est tout simplement une âme sauvée, et puis 10, et puis 100. Et moi, je veux croire que rien qu'à Gap, pour ne pas parler des villes dans lesquelles vous habitez, pour ne pas parler de la région dans laquelle nous habitons, pour ne pas parler de la France et de l'Europe et du monde entier, je reste persuadé que les évangéliques, qui ne sont que 600 000, pourraient être 6 millions, assurément. Ça pourrait être même bien davantage que cela, parce que Dieu a dit que c'était possible. Et si Dieu l'a dit, on peut compter sur lui. Alors, il y a un contexte qui est quand même assez morose, et du temps d'Isaac, ben, le contexte n'était pas favorable. C'était difficile, c'était un temps de famine. On a connu des temps de famine, on a connu des temps difficiles, on a connu des temps où tout allait tellement bien, et puis d'autres moments où on a ramé, on s'est dit qu'on est vraiment dans une drôle de galère, et on a du mal à avancer, c'est une tempête qui ne finit pas. Alors Isaac, il a pris ses dispositions, il a été un petit peu plus loin, mais je veux croire que si Dieu veut bénir le monde encore, et s'il y a des temps de famine, il faut quand même reconnaître qu'il y a des temps de famine au niveau du monde, mais au niveau du corps de Christ aussi, de l'Église, la foi diminue. Et si la foi diminue, elle diminue dans le cœur des croyants. Quand Jésus dira « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Il ne s'adresse pas aux païens, ils ne l'ont pas. Il s'adresse aux chrétiens, parce qu'eux, ils l'ont. Et on pourrait multiplier encore ces pensées-là, le paradoxe. C'est que face au malheur, c'est fou, les hommes ont toujours cherché du secours et de l'espoir. Ce qui a fait que le message de l'Évangile a tellement trouvé un écho, a tellement bien marché dans notre pays depuis les années 20, les années 30, allez, on va dire, jusque dans les années 80, parce que ce sont des années quand même assez marquantes. C'est tout simplement parce que la France était morose. On a passé deux guerres. Sans compter celle de 1870, donc trois. La France était morose, tellement sont morts au champ d'honneur, sur les champs de bataille. Il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas eu un deuil, il n'y avait pas une ville où il n'y avait pas un cratère qui rappelait que ça avait été bombardé, etc. Il y avait des tas de terrains vagues. Mais il y avait les stigmates de la guerre. Mais quand vous passez par la guerre, vous cherchez de l'espoir. Vous cherchez de l'espoir. J'ai retrouvé, en relisant ceci, un article qui avait été écrit dans un de nos journaux Pentecôte, ça date de l'année dernière. Et il est question du réveil dans la Drôme et dans l'Ardèche. De quelle manière les églises se sont installées dans la Drôme et dans l'Ardèche? Et je connaissais cette histoire parce que le pasteur avec qui j'ai découvert l'Évangile et qui m'a envoyé lancer dans le ministère, est un petit peu à l'origine de ce qui s'est passé là. Et donc, ces histoires, je les avais déjà entendues. On avait déjà eu l'occasion de partager cela. Mais je reviens sur ce qui est noté. des témoignages tellement simples. On est dans les années 50. Les années 50, les années 60. Il est dit ceci. Quel dénuement et quelle modestie s'attacher à ce local. On parle de réunion à Cray, notamment. Il n'y avait dans l'auditoire aucun membre des assemblées de Dieu. Tous les assistants étaient des nouveaux, au point que 200 Nouveaux Testaments seront vendus dans la mission. Le travail de Dieu s'effectuait sans à-coups, puisque à chaque réunion, des guérisons étaient constatées et racontées lors des réunions suivantes par les personnes qui les avaient expérimentées. On faisait des réunions après-midi et soir, pendant un mois, sans s'arrêter. Et à la fin du mois, à la fin des deux mois, il y avait un service de baptême avec 30, 40, 50 baptisés. Et ces gens-là sont toujours, s'ils sont toujours en vie, ils sont toujours dans les églises 40 ans, 50 ans plus tard. Donc de réelles conversions. Et ce qu'il y avait d'incroyable, c'est qu'on n'avait pas besoin de faire venir quelqu'un d'une autre église pour simplement expliquer sa guérison, ce que Dieu avait fait pour lui. Les gens venaient et le lendemain on disait, bon, est-ce que quelqu'un a été guéri hier? Et des gens levaient la main. J'étais sourd, je voyais pas d'un œil, j'avais un gloître, j'étais diagnostiqué avec un cancer et je sais pas, j'ai l'impression que ça va mieux. Je vais passer des examens et quelques temps plus tard, on apprenait que la personne était entièrement guérie. Des guérisons, mais d'un jour à l'autre. Mais quand une personne nouvelle rentrait là, et quand elle entendait, je suis venu hier, je me suis avancé à la prière, on m'a imposé les mains, je suis rentré à la maison, je suis guéri, j'avais les pieds beaux, regardez mes pieds, ils sont droits maintenant, je peux sauter, je peux courir. Mais croyez-moi que celui qui était malade au moment de la prière, il était le premier debout à réclamer la même chose. Il y avait un élan de foi. Il y avait un élan de foi. C'était tellement, tellement étonnant. D'autres témoignages. Presque tous les malades qui venaient à l'imposition des mains témoignaient ensuite de leur guérison. Un homme m'a amené son fils qui ne tenait pas debout. Le soir même, chez lui, l'enfant s'est mis debout et a marché. Une femme dépressive qui restait constamment cloîtrée chez elle n'est sortie de son isolement et a repris une vie normale. Et ça s'est reproduit des dizaines, des centaines de fois. Et pas que en Ardèche, mais dans tellement d'endroits en France. La même chose s'est reproduite. Ça s'est multiplié. Le contexte était morose. On sortait de la guerre. Il n'y avait rien. Vous l'avez vécu pour pas mal d'entre vous. Il n'y avait pas l'eau courante. Les toilettes, c'était dehors. Il y avait encore un petit peu de rationnement juste après la guerre. Ça a été compliqué quand même. Et puis après, certains diront, formidable, il y a eu les 30 glorieuses. Et l'espoir s'est éteint. L'espoir a été étouffé, ou plutôt l'espoir a été assouvi. Tout le monde a eu la télé, tout le monde a eu le chauffage, tout le monde a eu de belles maisons, tout le monde a pu avoir tellement mieux et un travail dans lequel il savait qu'il resterait de 20 ans jusqu'à 60 ans, il ne serait jamais au chômage. Finalement, les temps moroses réclamaient de l'espoir. Et l'Évangile était cet espoir-là. Et ça répondait, ça collait totalement. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que franchement, on est quand même dans des temps moroses, hein, quand même, il faut l'avouer. Hein. Mais ce n'est pas le même genre d'espoir qui lève aujourd'hui. Et c'est contre ça, je pense qu'on a les yeux ouverts par rapport à cela, on est dans un temps de famine spirituelle. Un temps de famine spirituelle. Et je pense que l'espoir peut renaître dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Le désespoir semble tellement fort que les personnes deviennent imperméables au message. Vous leur parlez de la grâce de Dieu, vous leur parlez de l'amour de Dieu, vous leur dites, allez, viens avec moi à l'église et Dieu va te bénir. Surtout, mes frères et sœurs, ne dites pas aux gens, va à l'église et Dieu va te bénir, hein, parce qu'ils ne viendront jamais tout seuls. Mais dites-leur, viens avec moi à l'église et Dieu va te bénir. Peut-être qu'ils vous diront, ah, oh, j'ai d'autres soucis, ah, oh, j'ai des problèmes, oh, j'ai tellement de choses qui ne vont pas. C'est comme si vous semiez, écoutez bien, dans un temps de famine, et que vous dites, mais ce que je sème, est-ce que je vais au moins le récupérer? Est-ce que le temps que je perds, je vais au moins le récupérer? Est-ce que l'énergie que j'y mets, est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que l'argent que je donne à telle et telle personne, est-ce que je vais le récupérer? On a entendu un témoignage, tu t'en souviens, Johan? On a entendu un témoignage étonnant d'un frère qui disait ceci. Alors, quel est le frère qui a dit cela? Il me manque une heure de sommeil, hein. Je ne sais plus. Il dira ceci, qu'un jour, il a rencontré quelqu'un qui était quasiment à la rue. Et devant la détresse de cette personne, le pasteur Claude Roussel, devant la détresse de cette personne, il a pas pu faire autrement que de l'amener à la maison pour lui donner un repas. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit à sa femme, je te présente quelqu'un qui vient de la rue, on va manger tous les trois. Et donc ils se sont mis à table tous les trois et ils ont partagé ce qu'ils avaient préparé, évidemment. Et cet homme a bien mangé, steak puré, il a bien mangé. Et à la fin, ils lui ont donné un évangile ou une Bible. Et cet homme a compris qu'on ne peut pas donner à quelqu'un un évangile, une Bible, si son ventre crie famine. C'était sa préoccupation essentielle. Et en fait, il l'a nourri. Et cet homme est reparti. Il ne l'a plus jamais revu. Plus jamais revu. 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, il reçoit un contact, un appel, et il lui dit « Est-ce que c'est bien vous qui étiez à tel endroit à cette époque-là » Et en discutant, donc par Internet, et il a dit « Oui, oui, effectivement. » Et il se trouve que la personne en question, elle s'est convertie. Quelques temps plus tard, elle est devenue chrétienne, et dans la famille, on s'est converti. Et dans la famille, il y a eu un pasteur des Assemblées de Dieu de France. Et lui ne l'a su que des dizaines d'années plus tard. Comme quoi, vous semez et vous dites l'investissement perdu. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et vous apercevez que le retour, il a été au centuple. Parce que quand quelqu'un se convertit, son âme est sauvée. Mais quand il devient un disciple de Jésus-Christ et qu'il se met à servir et à travailler pour Dieu, c'est peut-être des dizaines et des centaines qui seront bénis. Regardez la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Tous les peuples, toutes les nations seront bénies par toi. Ça a commencé par Isaac, mais ça s'est poursuivi avec toutes les familles qui ont pu lui être nourries, qui ont pu être bénies. Et ça se multiplie, ça se multiplie, ça se décuple de cette manière-là. Je crois que même si on a l'impression qu'autour de nous c'est morose et que les gens sont vraiment durs à l'évangile, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle manière, qui peut juger de cela d'ailleurs. Mais moi, je crois qu'il existe une loi spirituelle. Même si le monde est morose, il existe une loi spirituelle qui existe depuis toujours. C'est que la semence porte la vie en elle-même. Elle a la vie au-dedans d'elle. Et c'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Il a décidé qu'un grain pourrait en donner 100. Vous imaginez ? C'est pas du clonage, hein, ça fait mieux quand même. Hein. Un grain peut en donner 100. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on y pense, il y a quelque chose. On sait que la semence a une durée de vie en général. Si vous avez des semis, vous savez qu'au bout de quelques années, ça ne marche plus. Mais il y a un record en la matière. Ça tient du miracle. Et à croire que ça pouvait se trouver que là, on a retrouvé des graines de date. Vous savez où ? En Israël, à Masada. Elles datent de 2000 ans. De 2000 ans. On a fait fonctionner le carbone 14. Et on les a gardés dans un coffre pendant une trentaine d'années, des années 50 aux années 80. Et tout à coup, on s'est dit, et si on plantait pour voir ? Ils ont planté la semence et l'arbre est sorti. 2000 ans plus tard. C'est quand même incroyable. Comme s'il fallait que ce soit fait exprès, je suis sûr que c'est fait exprès, il fallait que cette semence, elle ait été conservée en Israël. C'est incroyable quand même, hein. La terre du Dieu des miracles, hein ? La terre du Dieu des miracles. Je crois qu'on est tous convaincus que notre Dieu est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. Et la semence de l'Évangile, elle peut lever 1 an, 5 ans, 10 ans, 1000 ans, 2000 ans plus tard, elle peut lever encore. Ça m'amène à vous dire que la semence de l'Évangile est entrée dans cette dimension-là il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on prêche l'Évangile un petit peu partout sur la planète, et il y a des endroits pierreux, il y a des endroits couverts d'épines, il y a des endroits qui ressemblent à des chemins tellement surexploités qu'on se dit que la semence, elle va pas porter du fruit, ça va pas marcher. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qu'on récolte quelquefois ? Mais qu'est-ce qu'on comprend de tout ça ? L'apôtre Paul parlait de division qu'il y avait dans l'Église, Et il dira, mais pourquoi certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus-Christ, etc. Moi j'ai prêché, c'est sûr. Et puis Apollos a planté lui aussi, mais celui qui arrose et qui fait croître, c'est Dieu. La pluie, elle vient d'en haut. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui accorde cette grâce extraordinaire. Je vous recite ce verset. Apollos, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu, parce que c'est lui qui fait croître. Merci. Deux choses sont en jeu pour que ça marche, la semence et Dieu. Et on a de la chance, ces deux choses-là ne sont pas à nous, elles lui appartiennent. En somme, la semence est à lui. Par contre, il vous l'a donnée, vous l'avez dans la main. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez la garder dans le placard en disant, c'est un temps de famine, il vaut mieux que je me la garde, il vaut mieux que je garde mes forces pour moi. Ou alors, est-ce que vous allez essayer de faire de l'investissement pour que ça vous rapporte à vous? Ce sera un mauvais calcul. Mais si vous plantez pour l'œuvre de Dieu, si vous travaillez pour l'œuvre de Dieu, si vous faites pour l'œuvre de Dieu, nul doute que ça va porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Je termine en disant qu'il y a une moisson qui a été préparée. Et du temps d'Isaac, ses regards le poussent vers l'Égypte. Mais Dieu dit, non, l'Égypte, ce n'est pas un bon plan. Je veux que tu t'arrêtes là. Oui, mais là, Guérard, ça ne marchera pas. Il n'y a pas ce qu'il faut. En Égypte, il y a ce qu'il faut. Dieu avait d'autres projets. Dieu avait d'autres plans. Et le plan s'est arrêté à Guérard. Et finalement, il a été béni. Vous relirez la suite du texte et vous verrez que dans cet endroit, son père avait vécu. Il avait creusé des puits et les Philistins avaient bouché tous les puits. Alors lui, il a été recreuser les puits. Parce qu'il savait que dans ces endroits-là, on pouvait récolter de l'eau. Et quand ses ennemis, ou en tous les cas ceux qui n'étaient pas tellement amis avec lui, ont vu ces nouveaux puits, ils ne les connaissaient peut-être même pas, ils se sont dit, mais formidable, il a travaillé pour nous. Donc ils ont récupéré ces puits. Et le pauvre Isaac a été porté de loin en loin, de plus en plus loin, parce qu'il avait le bénéfice du travail de son père. Mais il ne pouvait pas vivre sur le travail de son père. Il fallait qu'il vive de son travail. Et oui, il fallait qu'il vive de son travail. Vous savez que quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, la manne s'est arrêtée. Le jour suivant, la manne s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce que maintenant, il pouvait habiter là, et il pouvait semer, et il devait travailler. C'est fini que tout tombe du ciel tout cuit comme ça. Il fallait travailler, et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans le fond, Isaac va apprendre à creuser des puits tout seul. Et il va trouver des puits où il y avait de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau souterraine. Et il va même être repoussé un petit peu plus loin, jusqu'au moment où on va le laisser tranquille. Formidable, il va appeler ce puits Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Frères et sœurs, on ne sera jamais autant au large que quand on verra ceux pour lesquels on a prié s'engager dans les eaux du baptême. On ne sera jamais aussi heureux que quand quelqu'un acceptera le Nouveau Testament qu'on va lui donner, que quand suite à la prière, parce qu'on aura passé du temps dans la prière, on aura passé des heures, on aura jeûné, on aura prié. Non, on aura fait plus que d'habitude, plus que l'habitude. On aura fait plus. On se sera investi véritablement. Eh bien, on sera réjoui de voir que le retour sur cet investissement, il est formidable. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, mais Dieu devient son Dieu. Et comme par hasard, il devient riche. Eh oui, il a semé cette même année. Il a semé cette année-là dans ce pays où il était. Il n'avait pas les yeux qui portaient toujours très loin en disant « j'aimerais tant être ailleurs ». C'était là qu'il fallait être et Dieu l'a béni d'une façon exceptionnelle. C'était la famine n'était pas loin. Merci Seigneur parce qu'on n'est pas, nous, là dans l'Église, on ne va pas dire qu'on est dans un temps de famine, mais la famine est tout autour quand même. Et on veut que ce que l'on a soit partagé, ce message se répande, et que la famine recule, plutôt qu'elle n'avance, que le désert recule, plutôt qu'il ne prenne place dans nos cœurs. Dieu peut le faire, Dieu va le faire. En fait, vous avez la semence, vous l'avez la semence. Hein. Vous avez le terrain, et Dieu a la vie. Si on met les trois ensemble, ça va porter beaucoup de fruits. Si on met les trois ensemble, ça va porter beaucoup de fruits. Refusons la famine, recherchons les eaux vives. Isaac les a trouvées, ces eaux vives, et nous verrons la grâce de Dieu agir et se manifester encore. Que Dieu soit loué pour ce temps où une moisson a été préparée. Moi, je veux croire. Je ne parlerai pas de temps de réveil, parce que c'est de la sémantique, ce sont des mots. Moi, je parlerai d'un temps de grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et que dans les semaines qui viennent, tous ceux pour lesquels vous avez prié reviennent vers vous en disant « Hé, il faut que tu me parles un peu plus de ton Dieu. » Amen. Tous ceux pour lesquels vous priez, qu'ils puissent venir vers vous confondus en disant « Mais je veux m'engager avec Dieu maintenant. » Et que ceux à qui vous avez parlé du baptême de l'Esprit reviennent vous voir tellement heureux avec les yeux qui pétillent en disant « J'étais en prière à la maison et j'ai été visité par Dieu. » J'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de plaire à Dieu, j'ai envie de m'engager pour lui. Plaise à Dieu que le grain que vous avez semé vous en donne 30 tout de suite, 60 demain, 100 après-demain, et que ces 100 soient plantés en produisent eux-mêmes 100 autres. C'est ça que Dieu veut faire, c'est ça que Dieu veut bénir. L'objectif, que ce soit vraiment au centuple, centuple de notre temps, de notre énergie, de ce que l'on déploie, et la moisson est là. Dieu va bénir. Les chansons blancs, quand la Samaritaine a été bénie et qu'elle est revenue vers Jésus et que le village est venu vers Jésus, Jésus dira, vous dites qu'il y a 4 mois pour la moisson. Et moi, je vous dis que c'est maintenant la moisson. C'est maintenant. Alors, on ne va pas se gargariser de beaux mots. On ne va pas se dire, on a besoin simplement de s'en persuader, on veut le vivre. Alors, faites ce qu'il faut, sortez et semez ce que Dieu vous a donné et il vous bénira encore. Amen. On se lève ensemble pour invoquer Dieu. Amen. J'aimerais que dans cette prière que l'on va faire maintenant, j'aimerais que vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, j'aimerais que vous qui sentez votre petitesse ou en tous les cas votre faible mesure, j'aimerais que vous qui avez l'impression de vous être arrêté, d'avoir tiré le frein à main il y a longtemps en ce qui concerne votre engagement pour Dieu, j'aimerais que vous puissiez retrouver espoir ce matin en vous disant que Dieu veut faire encore quelque chose avec vous et que Dieu veut vous utiliser encore. Dieu vous a averti tout à l'heure qu'il y a des moments où il faut savoir s'arrêter pour l'écouter, pour passer du temps avec lui. Et il vous redit la même chose pour que demain, lorsque vous sortirez, vous soyez bien plus armés pour le glorifier. On va prier et on va demander à Dieu sa grâce. Vous qui voulez aller plus loin avec Dieu, vous qui voulez devenir gagneur d'âme, gagneur, le sage s'empare des âmes, quelqu'un qui va gagner des âmes pour le ciel. J'aimerais que vous fassiez une prière individuelle, très personnelle maintenant, en suppliant Dieu de venir se poser sur vous, poser son esprit, poser sa main, poser le regard sur votre vie. J'aimerais que vous demandiez à Dieu une bénédiction particulière maintenant, une grâce qui vienne d'en haut, la force dans vos os, comme dit le psalmiste, qu'il revigore votre santé, qu'il ravive votre être tout entier, qu'il vous donne la vie d'en haut, qu'il vous donne ses dons d'en haut, qu'il vous donne cette puissance qui vient d'en haut. Nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour vaincre l'adversité et pour triompher, là encore, de l'incrédulité. Notre Dieu est au ciel. Il n'a pas d'équivalent. Il fait ce qu'il veut. Il est fort. Il nous dit qu'il a remporté la victoire et il nous dit que nous sommes vainqueurs. Et nous voulons sortir et travailler ainsi à glorifier son nom. Seigneur, vois ces cœurs disposés, vois ces âmes qui se tournent vers toi, vois ce cœur sincère qui te supplie de faire quelque chose en son âme et dans sa vie. Je te demande d'étendre ta main. Je te demande d'agir, ô Père, parce que nous sommes là pour te servir. Nous n'avons pas voulu de toi pour notre vie uniquement, mais nous avons voulu que tu viennes toucher notre cœur pour te servir de nous par la suite. Nous n'avons pas voulu de toi dans nos vies pour emmagasiner dans nos greniers ni amasser des richesses spirituelles uniquement pour nous. Mais nous t'avons demandé si souvent, sers-toi de nous, ô Père, sers-toi de nous. Je prie que tu bénisses celui qui, d'un cœur sincère, te demande de te servir de lui pour amener quelqu'un au Seigneur, quelqu'un à la foi. Je prie que tu bénisses celui qui rend témoignage depuis des semaines et des années, celui qui distribue des Bibles depuis des années et qui n'a pas eu retour sur investissement. Je voudrais qu'il entende cette bonne nouvelle de quelqu'un qui aura accepté Jésus quelque part dans le monde à cause de cette Bible, de cet évangile qui aura été donné. Merci de ta grâce. Tu es le Dieu de la grâce. Tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu de la délivrance. Merci de te glorifier maintenant au nom de Jésus. S'il te plaît, étends ta main et manifeste-toi et glorifie ton nom, Père. Amen.